Lundi 23 janvier 2006, 10h15 du soir, Xiamen, Chine. L'ombre, le vent, la mer, bleu, les dentelles, les gestes, le thé, rouge. Plus loin, le singe, noir. Nouvelle ère, couleur de quoi? Le chien jaune, le savon, la brosse, le bus, la pâte de soja, le sourire qu'on ne recevra pas. L'ombre hésite à se vendre avec le reste. L'ombre garde ses recoins. Elle se couche tard, de plus en plus loin. Elle reste, couvre les cils, sans nom, vide, céleste. L'ombre sait comment tu bouges quand tu dors, cours autour de rien, serre la main du vent. L'ombre claque, achève d'exploser ses pétards, range les bonbons sous la table, bois l'eau de ton bain, rampe derrière toi, plus vite, mieux. Elle les cerne sous tes yeux, courbe sur tes seins, manteau dans ton dos. Elle est imparable, rien ne l'atteint. Revenir ne l'effraie pas, elle te suit où tu vas, même quand tu pars, en dehors de toi. Elle s'efface à reculons. L'ombre sans couleur dissimule la crasse et le bruit, le viol et l'ennui. Et monté sur le frigo, le singe ricane. Il ne renonce à rien, il lui reste 10 ans.
Merci Anne Penders, vous êtes bien sur Radio Campus et ses bruits de Chine jusqu'à 13h et nous écoutions un extrait du lundi d'après. Alors Anne Penders est docteur en histoire de l'art et photographe. Son parcours artistique inclut aussi la vidéo et l'écriture, avec comme axe principal de son travail la vidéo, le voyage. Elle a participé en Chine à plusieurs projets, dont le Nanling Mountain Project dans le Guangdong et le Vis-à-vis Art Lab à Xiamen dans le Fujian. Quand elle est à Bruxelles, elle enseigne à la Cambre. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont Dimanche et Le lundi d'après à Esperluette Édition. Et Le lundi d'après, on vient d'en entendre un extrait. Alors, Anne Penders, vous utilisez différents médiums. Et comment l'écriture est-elle entrée dans votre vie?
Je suis née avec, je crois. Je crois que l'écriture est première. Je crois que l'écriture est... c'est un truc... D'aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à écrire des poèmes, je crois que j'avais 7 ou 8 ans. Et voilà. Par contre, c'est pas ça qui a été rendu public le plus vite, mais c'était des petits trucs journalistiques et puis des essais plus historiques. Mais je veux dire, l'écriture dite littéraire, même si je le faisais dans mon coin, ça a mis du temps à sortir au grand jour.
Mais ça vous a jamais quitté?
Non, j'ai cru à un moment donné, je pense, quand j'avais 20 ans, au secours, je ne sais plus écrire, c'est foutu, je ne serai jamais écrivain. Mais bon, c'était pas vrai du tout. Ça a peut-être duré 2 mois, j'en sais rien.
Il fallait juste retrouver l'enfance, en tout cas. Sur quels critères se fait le choix de l'écriture, de la photographie ou de la vidéo dans votre travail?
Et je pense qu'il n'y a pas de critères, ça vient tout seul. C'est un truc... Je me balade toujours avec un peu de tout. Mais encore une fois, je pense que l'écriture est première. Quand j'arrive quelque part, je crois que j'aurai plus facilement recours à l'écriture dans un premier temps. Je ne vais jamais sortir mon appareil photo tout de suite ou très vite, la vidéo non plus. Oui, je pense que la photo, j'ai besoin d'une imprégnation. J'ai besoin d'une imprégnation pour tout, mais je pense que donc c'est une histoire d'imprégnation. Et puis les choses se font un peu par cycle et par phase. Je pense que le choix n'est pas opéré de manière préalable et ni complètement consciente. Enfin, sauf sur certains projets où je me dis là, vraiment, je veux faire ce projet-là en vidéo, par exemple, parce que ça permet une distance différente. Je crois que ce sont des médiums qui ne parlent pas la même langue.
Mmh. Mais moi, je me demandais si l'image, c'était pas quand les mots ne venaient pas.
Si, il y a de ça. Il y a aussi un repos. Je me souviens d'avoir écrit quelque part que l'image me reposait du texte. Je veux dire, il y a quelque chose... Quand les mots ne viennent pas, c'est peut-être plutôt le dessin, qui est quelque chose que je fais depuis quelques années, plus récemment. Ce sont des dessins assez abstraits, parce que c'est... Je dessine les sons que j'entends, donc ça c'est encore autre chose.
Oui, alors là, les sons du voyage, ça va être quand même assez complexe.
Oui, j'ai fait tout un travail là-dessus en Chine, avec justement, je dessinais les sons que j'entendais et puis je les faisais lire par des Chinois, des artistes chinois. J'en ai encore rien fait de ce projet-là, mais c'est parce que je m'étais rendu compte que ce que je dessinais pouvait ressembler à des caractères, donc je me demandais ce que des gens qui ne parlaient pas la même langue, qui n'écrivaient pas de la même manière que moi, pouvaient voir. Et c'est, les résultats sont surprenants, c'est hallucinant. J'avais l'impression qu'ils lisaient à l'intérieur de moi, donc du coup, je me suis demandé si ce que je dessinais, c'était bien le son que j'entendais à l'extérieur, si c'était pas plutôt une émanation bizarre d'un monde intérieur.
Bah, forcément.
Là où ça rejoint l'écriture, en fait.
Ouais, voilà. En tout cas, l'expérience est originale et intéressante. Le voyage, c'est un prérequis nécessaire à l'écriture ou à la création ?
C'est une bonne question. Pour l'écriture, probablement moins, mais ça l'a beaucoup été. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et c'est vrai que pour la photo, la vidéo, j'ai très très rarement fait des choses ici. Encore une fois, en me disant que bon, ici est une entité extrêmement mouvante. Mais récemment, je me suis mis à travailler plus justement à partir d'ici. Sur la mémoire aussi, sur la mémoire, forcément la mémoire des voyages et d'avant. Mais et aussi, je travaille, enfin, la dernière création sonore que j'ai faite a été faite en Chine, mais la prochaine, je travaille beaucoup sur l'Asie hors d'Asie. C'est un travail que j'avais commencé avec la photo, qui a été très peu montré. Et là, je vais faire un travail sonore qui tournera autour de la question de la migration, donc sur la diaspora, enfin sur l'exil, la diaspora chinoise ou Asie du Sud-Est, bon, en Europe.
En tout cas, on attend ça avec impatience sur la création sonore. On aura peut-être l'occasion d'en reparler et même de l'écouter. L'écriture, est-ce que c'est quelque chose de spontané ?
Dans le cas de dimanche et du lundi d'après, oui, dans le sens où j'appelle ça écriture spontanée à distance, qui serait à distance d'un ici, puisque je suis ailleurs, ou à distance de quelqu'un qui ne serait pas là. C'est sur le modèle de l'écriture automatique. Donc j'écris sans lâcher le crayon, je me donne des cadres, et la seule chose que je m'autorise après, c'est de retravailler la ponctuation ou d'enlever des mots. Donc en fait, ce que vous venez d'entendre a été écrit d'une seule traite, et tous les livres l'ont été comme ça. Ce qui n'est pas du tout la même chose quand j'écris les romans que j'ai écrits n'étaient pas écrits comme ça, évidemment. Dans un roman, je vais remplacer un mot par un autre si je ne l'aime plus. Ici, je vais l'enlever, et si du coup la phrase est bancale, je vais enlever la phrase entière.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche, justement, un peu jusqu'au boutiste d'écriture ?
Je suis radicale. En fait, cette histoire d'écriture spontanée à distance, c'est né d'un travail que j'avais fait avec une autre artiste. Je faisais partie d'un groupe d'artistes à Bruxelles à la fin des années 90. Et elle était danseuse, elle s'appelle Catherine Massin, et elle travaillait dans le cadre de la danse avec de l'improvisation et notamment de l'écriture automatique. Et on a voulu faire un projet ensemble. Et à l'époque, j'habitais entre Bruxelles et New York, et on a fait une première expérience où j'écrivais à New York, elle écrivait à Bruxelles, on écrivait en même temps. Et il s'est passé des choses très très bizarres. On écrivait, voilà, on se donnait des rendez-vous téléphoniques, on se donnait des rendez-vous par téléphone, et on disait, voilà, j'écris demain à telle heure, et je savais qu'elle écrivait aussi à la même heure, mais avec
le
décalage.
En plus, avec le décalage.
Ouais. Et ça donnait un très chouette résultat, dont on a fait un travail sonore. Et du coup, quand je suis repartie en Asie l'année d'après, on s'est dit, tiens, on va faire l'expérience. Et dimanche, en fait, c'était le livre dimanche, c'est né du travail que j'avais fait avec elle, où on écrivait chacune le dimanche. Mais dans le livre, il n'y a que mes textes à moi. Mais on a fait une installation sonore avec nos deux voix mélangées.
D'accord. Alors, vous voyagez seule quand vous allez en Chine ?
Oui, j'ai toujours, j'ai presque toujours voyagé seule. Sur les trois voyages que j'ai fait en Chine, il y a un seul où j'étais pas seule et c'était catastrophique.
On vous demandera pas pourquoi.
Oui, enfin voilà, mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que dans le lundi d'après, je crois qu'il y a à peu près la moitié du livre qui a disparu et qui est tombé à la trappe parce que j'écrivais des choses beaucoup trop tragiques. Parce que le lundi d'après a été écrit en partie pendant le deuxième voyage et a été terminé pendant le troisième voyage. Donc le premier voyage en Chine, c'était dans dimanche, là je l'ai fait seule. Le deuxième, j'étais pas seule, le troisième, j'étais de nouveau seule. Donc en tout, j'ai passé à peu près 9 mois en Chine en 5 ans.
Mais qu'est-ce qui change quand on voyage seule, justement ?
Le regard, mais je pense que ça dépend beaucoup de la personne qui éventuellement nous accompagne ou nous accompagnerait. Je ne désespère pas de pouvoir un jour voyager. Les premiers voyages que j'ai faits quand j'étais plus jeune, j'étais pas seule. Mais je pense que ce qui change quand on est seule, c'est le regard, l'écoute. C'est une certaine... Il y a un rapport, enfin pour moi en tout cas, il y a un rapport extrêmement méditatif au voyage. C'est pas du tout, je voyage pas du tout dans des questions d'exotisme et des choses comme ça. Et j'ai longtemps vécu en Belgique comme si j'étais en voyage. Je veux dire, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être pour moi. Et alors forcément, je crois quelque chose dans le rapport aux autres. Je pense que les gens, je dirais les locaux, les gens chez qui on est, viennent beaucoup plus facilement vers vous si vous êtes seul que si vous n'êtes pas seul. Sauf probablement si vous voyagez avec des enfants. Ça, c'est encore autre chose.
Oui, ça, il paraît que c'est assez souverain, les enfants, ouais, pour entrer en contact.
Mais je pense que si on est deux, on est déjà une entité à part entière et les gens...
Oui, c'est déjà un petit monde.
Oui, ils viennent plus difficilement. Oui.
Alors justement, l'errance, c'est un mode de vie, puisque vous errez même à Bruxelles.
Et je ne sais pas si je parlerai d'errance. Pour moi, l'errance, il y a... Enfin, parfois, l'errance a une connotation négative, parce qu'on peut être un peu perdu. Mais ceci dit, la perte, la possibilité de se perdre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Oui, le voyage, je parle plus souvent de mouvance. Pour moi, c'est un mode de vie. C'est vraiment quelque chose... je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'est naturel alors que je ne suis pas née là-dedans. Mais... Et j'aurais envie de dire quelque chose qui m'est indispensable. Si je bouffe pas, je m'étiole, je voilà. Et j'ai beaucoup de mal à j'ai envie de dire j'ai beaucoup de mal à avec l'immobilité et en même temps ces dernières années j'ai un peu moins voyagé. Je veux dire la dernière fois j'étais en Chine, là c'était donc 2006 et je suis plus allée en Chine depuis et je suis plus sortie d'Europe depuis 2006, ce qui est dingue. Enfin moi, il s'est passé d'autres choses dans ma vie et du coup ça me donne envie de travailler aussi sur l'immobilité. Qu'est-ce qui se passe, enfin là je viens de faire tout un projet vidéo là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand on est immobile, est-ce que il y a toujours bien quelque chose qui bouge autour ou à l'intérieur de soi, et qu'est-ce que ça apporte d'autre? Parce qu'en même temps chez moi ce qui est bizarre c'est que c'est la mouvance qui est un état méditatif alors qu'on dit toujours que la méditation il faut s'arrêter quelque part, donc je sais pas.
Oui, normalement il faut se poser, mais en fait pour vous voyager et se frotter aux autres c'est pour rentrer en vous-même, c'est vous bouger pour vous poser.
Oui, il y a énormément de ça et je bouge aussi très lentement. Donc, je veux dire, par exemple, les voyages en Chine, je suis chaque fois restée 3 mois, ce qui est le maximum qu'on peut rester avec un visa touristique. Et je pense que si le maximum a été 6 mois, je serais peut-être restée 6 mois. Je veux dire, pour moi, la durée est très importante. Et donc du coup je me pose, je ne suis pas en train de courir. Je suis allée 9 mois en Chine en tout, en 5 ans, je ne suis jamais allée à Pékin. Voilà, la première fois que je suis arrivée en Chine, je suis arrivée par la route, je venais du Laos, d'abord de Thaïlande. J'avais pris un aller simple sur Bangkok, mm-hmm. Et je suis arrivée par la route en traversant la Thaïlande, le Laos. Et donc j'étais déjà sur la route depuis 3 mois quand je suis arrivée en Chine, où je suis restée 3 mois, puis après je continuais, je suis allée au Japon. Voilà, et je suis allée tout doucement, j'ai longé la frontière birmane, et puis je traversais le Guizhou, et je suis arrivée à Canton, et puis à Canton, j'ai rencontré des gens fabuleux, je suis restée 1 mois à Canton. Et puis là, je suis allée à Shanghai, où je suis aussi restée 2 semaines, et donc voilà, ben finalement, mes 3 mois, ils étaient quasi finis, je suis vite redescendue, je suis sortie à Hong Kong, et voilà. Et bon, les autres voyages se sont passés un peu de la même manière, sauf ce dont vous avez parlé, le troisième voyage, là où j'étais en résidence... avec la galerie Vitamine à Canton, qui m'avait invité pour participer à leur projet dans la montagne, qui est le Nanling Mountain Project. Je ne sais pas si ça a encore lieu, ce projet. C'est une résonance d'artistes. Ils invitent des artistes à séjourner dans une maison dans la montagne.
Sur Internet, il avait l'air encore actif.
Et ben voilà, c'est bien. Parce que je sais qu'à l'époque où j'y étais, il y avait un peu des hésitations. Justement, bon, en Chine, les choses ne sont pas toujours très évidente à monter ou en tout cas à faire durer justement parce qu'il y a toujours des conditions politiques, des choses comme ça. Et puis après j'étais invitée par le Vis-à-vis Art Lab qui est monté par un artiste qui s'appelle Lu Ming qui a passé 4 ans dans une école d'art en Belgique, je pense 4 ans ou 2 ans et puis qui est reparti en Chine pour créer ce projet qui est aussi un projet de résidence qui fait fonctionner tout seul, vaille que vaille. Et ça, c'est à Xiamen. Et Xiamen, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas une scène artistique un peu... qui commence à Canton, ça commence à se développer un peu. Il y a une très bonne école d'art. À Xiamen, il y a deux, trois trucs qui se passent, mais c'est plus difficile, je pense, pour lui.
Et pourtant, on a retenu le nom du groupe Xiamen Dada, qui a été à l'origine du développement de l'art contemporain chinois.
Oui, on dit aussi que The Big Tail Elephants à Canton était à l'origine de pas mal de trucs. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses chez certains...
Au sud.
Et c'est marrant parce qu'on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Mais je pense au sud parce qu'ils avaient peut-être plus de marge de manœuvre. Je pense qu'ils sont plus... Ils le disent eux-mêmes, mais je pense qu'il y a quelque chose dans la mentalité du sud qui est... un peu plus rebelle, entre guillemets, je sais pas. Puis la proximité de Hong Kong aussi, peut-être.
Est-ce que vous vous sentez en résonance avec les artistes chinois?
Ça dépend lesquels. J'ai rencontré deux, trois femmes, dont on parle souvent moins, les femmes, qui ont une position, qui faisaient de la photo. Mais bon, c'était là il y a longtemps, c'était en 2001. J'ai rencontré un artiste chinois avec lequel je me sens très, très fort en résonance, qui s'appelle Huang Xiaoping, et mais lui, c'est aussi quelqu'un de particulier parce qu'il a vécu 10 ans en Angleterre après avoir fait la Slade University, et maintenant il est revenu en Chine et il enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Canton, et il travaille sur des questions qui moi me touchent pas mal, justement sur des questions de disparition en rapport avec l'urbanité, des choses comme ça. J'avais un coup de cœur pour une artiste dont j'ai oublié le nom maintenant tout de suite là. Quand j'étais la deuxième fois que j'étais en Chine, j'étais là au moment de la première triennale de Canton, et il y avait une artiste qui avait fait un film très très beau en noir et blanc, super 8, et après je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui vivait entre Canton et New York, et donc j'ai l'impression que les gens avec qui je suis en résonance sont des gens qui ont quitté la Chine,
qui ont pris du recul.
Oui, je ne sais pas, mais qui sont revenus aussi. Enfin, j'y parle au niveau artistique. Hein. Sinon, je me sens très très bien en Chine. Un peu comme vous disiez tout à l'heure, hors antenne. C'est une belle rencontre avec les gens. Je trouve qu'ils ont un humour assez proche de l'humour belge. Même si ça me paraît complètement bizarre.
Je n'avais pas vu comme ça, mais... Mais c'est vrai qu'ils sont étonnants. Il y a quelque chose d'extrêmement attachant dans le peuple chinois, dans les gens qu'on rencontre.
Très ouvert.
Oui, c'est vrai.
Étonnamment. Enfin, oui. Par rapport à tous les préjugés qu'on peut avoir.
Et par rapport à l'histoire qu'ils ont vécue et qui trimballent sur leur dos.
Je pense qu'il y a un désir de ça aussi. Maintenant, il faut voir comment ça va évoluer. Moi, j'ai quand même vu la Chine changer énormément entre tout début 2001 et maintenant. Donc, je ne sais pas. On arrive aussi avec une génération d'enfants uniques.
Oui.
Donc, c'est autre chose.
C'est vrai. Pour en revenir au voyage, vous avez dit dans le lundi d'après... Un jour, la nécessité vitale du voyage rendra impossible le voyage lui-même. Alors, quoi faire?
Ben, travailler sur l'immobilité.
Par exemple.
Oui, je veux dire, c'est quelque chose qui... Mais bon, ça rejoint beaucoup de considérations politiques. Je pense que chez moi, il y a un moment donné où le poétique rejoint le politique. Et ça dépasse la question de la Chine. Je pense qu'il y a une nécessité vitale du voyage, qu'il y a une nécessité vitale de la rencontre de l'autre, de l'autre, de soi, oui, pas pour se rendre compte justement que l'autre est différent, mais pour se rendre compte que l'autre est semblable. Et je pense que c'est quelque chose qui est une nécessité vitale et qui est tragiquement en train de disparaître parce qu'il y a ces voyages justement vers un autre, de l'autre, et cette espèce de besoin d'exotiser tout, de transformer les choses en images, les gens en images, et je trouve ça dramatique. Donc il y a une nécessité vitale, mais cette nécessité vitale, je pense qu'elle est en train de disparaître. Enfin, ce qui la rendait possible est en train de disparaître aussi. Et donc peut-être qu'un jour, il faut juste s'arrêter et explorer le proche ou retrouver les choses autrement. Et je sais pas... On ne sait pas comment les choses évoluent, mais peut-être la prochaine fois que j'irai en Chine, ce sera forcément à pied, parce qu'il n'y aura plus d'avion. Je ne sais pas.
Bon, ben alors là, il va falloir vous y prendre en avance. Justement, dans ce long périple, il y a des lieux qui vous ont particulièrement séduit, marqué, que vous n'oublierez plus jamais.
Oui, forcément. Mais les trois séjours en Chine étaient complètement différents. Et je pense que j'ai fait une rencontre magnifique à Taichung, qui est une petite ville à la frontière birmane, à l'extrême sud du Yunnan. Et voilà, c'est un homme magnifique avec lequel je suis restée en contact, qui est birman. Et je suis retournée le voir 5 ans après. Et je suis repassée par Kunming, où tout avait disparu. Les vieux quartiers de Kunming, qui étaient merveilleux, étaient complètement rasés. Il y avait un marché aux oiseaux qui n'existait plus. Les vieilles maisons de thé qui n'existaient plus. Le Guizhou, j'ai traversé le Guizhou. C'est une région très nuageux, sombre, comme ça, il pleuvait tout le temps, il y a même de la neige, et c'est une région où il y a pas mal d'ethnies qui vivent encore, et là je pense qu'ils sont en train de les transformer en momies de zoo, je sais
en
pas
réserve.
Quoi. Ouais, et donc, Canton, j'ai un attachement particulier pour Canton, qui est quelque part une ville horrible, super polluée, super, et qui change et qui ne change pas. En même temps, j'ai un attachement par rapport aux gens que j'y ai rencontrés dans la scène littéraire ou artistique, et voilà. Puis j'ai vécu quelque chose de magnifique à Hong Kong, mais encore une fois, c'est lié. J'adore Hong Kong comme ville, ça me rappelle New York, c'est un peu bateau de dire ça, mais en même temps, c'est une ville super verte, pleine d'îles, pleine de réserves naturelles, et j'ai peur que ça change un peu avec l'arrivée des continentaux. Mais encore une fois, c'est lié au fait que j'habitais chez quelqu'un de merveilleux. Et donc,
oui, ça change tout.
Beaucoup, oui.
Ça change le regard sur la ville. Vous êtes passé au Tibet aussi.
Oui, ça c'était au deuxième voyage. Je suis restée 5 semaines au Tibet. Et, en venant de Chengdu. Chengdu, c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Alors, je ne suis pas restée très longtemps, je crois que je suis restée 5 jours à Chengdu et puis un peu plus de 5 semaines au Tibet en plein hiver.
C'est pas mal quand même, 5 semaines.
Oui.
Mais surtout toujours seule
Non, là, j'étais pas seule. C'est le deuxième voyage, j'étais pas seule. Le deuxième voyage, j'étais pas seule, donc je garde un souvenir mitigé du Tibet.
Bon, il faut y retourner, alors. Ouais.
Non, le Tibet, c'est particulier, je veux dire. On sentait à quel point c'était déjà atteint par.
Par les Chinois, quoi.
Oui, mais une forme de développement. Et en même temps, j'ai rencontré des Chinois extrêmement sympathiques au Tibet. Je dirais, il y a quelque chose. Mais c'est ce que ça amène. Je veux dire, il y a une efficacité chinoise qui est à la fois effrayante et magnifique. Et je veux dire, par rapport au Tibet, ben, forcément, il y a des choses assez dingues. C'est des rouleaux compresseurs, quoi.
C'est un bulldozer qui détruit tout.
Oui, ou bien qui progresse avec des choses, voilà, on va dire que c'est le progrès, mais c'est comme dans le Guangdong, maintenant il n'y a plus une culture qui n'est pas génétiquement modifiée, ou quasi pas, donc je dirais oui, il y a quelque chose d'effrayant là-dedans, et en même temps ils vont vous dire que c'est pour nourrir la population, qu'il n'y a pas d'autre solution, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai.
Ouais, c'est compliqué ça, effectivement. Alors le temps, pour vous, comme pour tous les voyageurs, c'est important, et en Chine, il est différent, le temps.
C'est quelque chose de... c'est bizarre, j'ai dit pendant des années, enfin jusqu'à très peu de temps justement, jusqu'à très peu longtemps, j'avais coutume de dire que le temps n'existait pas, que c'était quelque part une vue de l'esprit, ou c'était quelque chose qui était personnel à chacun. Mais en fait, là j'ai un bébé. Depuis que j'ai un bébé, je me dis que le temps existe.
Et qu'il passe même très très vite.
Mais oui, c'est ça, parce que je commence à me dire que le temps passe vite. Donc je me dis, mais alors si le temps passe vite, c'est qu'il existe. Et je ne parle pas de temps, je parle de rythme. Et le rythme en Chine est différent. Et ce qui peut paraître effrayant, c'est que je trouve que c'est une culture... Il y a quelque chose d'ancestral et de fabuleux dans la culture ancestrale chinoise. Encore une fois, tout à l'heure, en antenne, on parlait de la médecine chinoise. Moi, c'est une médecine qui me touche énormément parce qu'elle traite les gens à partir des énergies. Et que je pense que c'est la seule chose qui a un sens pour moi. Et c'est ça qui est extrêmement questionnant. La troisième fois que j'étais en Chine, je me disais, mais c'est fou. Ils sont en train de... Comment est-ce qu'un pays qui est le berceau du taoïsme, qui est le berceau de cette médecine-là, comment est-ce qu'un pays comme ça peut à ce point... entrer dans un rythme qui n'a plus rien de naturel et qui va à l'encontre de l'humain, alors qu'ils ont une culture ancestrale qui est pour moi tellement juste par rapport à l'humain. Et donc c'est une question Je pense que cette question-là traverse beaucoup du lundi d'après.
Oui.
Et c'est une question qui traverse tout mon travail, même ceux que j'ai pas fait en Chine, et qui devrait, à mon avis, être partout présente chez nous, parce que ce qui se passe en Chine peut très bien nous arriver aussi.
Tout à fait. Je me demande même si ce ne serait pas une préfiguration de ce qui nous attend. Justement, dans le lundi d'après, vous dites « on ne regarde pas suffisamment les choses avec la conscience de leur disparition ». C'est bien ce que vous dites. Mais moi, j'ai trouvé qu'en Chine, plus qu'ailleurs, c'était un regard qui était extrêmement urgent, celui de la disparition.
Oui et non. Je veux dire, en même temps, en Chine, c'est comme si on nous collait le nez sur le miroir. Je veux dire, c'est ça qui est dramatique. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit le nez dans le caca pour sentir que ça sent pas bon, quoi? Je veux dire, c'est un truc... Je veux dire, c'est comme l'évolution de l'Europe. Je veux dire, quand j'habitais aux États-Unis, je me disais, mais... Il y a plein de trucs qui sont là-bas, ça se passe pas comme ça chez nous. On avait l'exemple de choses à pas faire, on les a faites quand même. Alors, je veux dire... la Chine, je crois qu'il y a des gens qui... Quand on entend parler certains économistes, moi, ça me fait froid dans le dos. Je me dis, il y a des gens qui envient le modèle chinois.
Bien sûr, mais le
comme
monde
entier. Comme on a pu envier le modèle américain. Et voilà. Et je veux dire, on entend plein de gens parler de progrès, de nécessité de croissance. Et puis, on entend des gens dire, mais vous avez bien eu ces choses avant nous. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas les avoir aussi? Pourquoi on ne pourrait pas avoir une voiture? Pourquoi on ne pourrait pas avoir ça? Et dans un certain sens, on peut comprendre ça dans un désir individuel, mais je veux dire, au-delà de ça, je veux dire, c'est pas parce que nous on a fait des conneries qu'il faut que les autres les fassent.
Certes, mais l'histoire entière du monde est faite de cet enchaînement. Et là, je pense que les Chinois, avec leurs 1,3 milliard, ils vont être encore plus forts que les autres pour imposer ce modèle que nous leur avons appris. C'est pas eux qui l'ont créé.
Non, et ils l'ont transformé sur des bases. Qui ne sont pas démocratiques et c'est encore, démocratie c'est encore un autre sujet, mais ce qui est pas mal c'est que les Chinois n'ont jamais, enfin, contrairement aux Américains, ils vont jamais prétendre qu'ils sont une démocratie, donc ils vont dire ben, nous on s'en fiche, on fait ça, on n'est pas une démocratie. Par contre leur efficacité, je pense qu'il y a maintenant un peu des lobbies, des choses comme ça, notamment le projet où j'ai participé, donc le Nanling Mountain Project, la personne qui est à l'origine de ça en collaboration avec la galerie, c'est aussi quelqu'un qui est un Chinois vraiment magnifique, qui est en train de développer une sorte de réserve naturelle et de faire un éco-projet basé sur un hôtel et des choses comme ça, mais de manière essayer d'inventer quelque chose d'écologique dans cette petite région de montagne qui a quand même commencé à être détruite comme partout ailleurs parce qu'il y a pas mal de barrages et tout ça. Et donc je me dis, si maintenant la question de l'écologie se mettait à atteindre certaines personnes, je pense qu'il y a des espèces de lobbies là-dessus. Et donc, si ça se trouve, les Chinois vont nous montrer l'exemple. C'est peut-être eux qui vont inventer, je sais pas moi, une substance particulière qui va faire qu'on peut refaire de l'oxygène à partir de quelque chose qui n'en est plus.
Mais cela dit, on peut être optimiste, parce que pour une puissance que l'on dit être la première en 2035, faudra bien qu'ils inventent un autre monde, parce que sinon, on aura tous disparu de la planète.
Je crois qu'il y a des gens, je veux dire, quand les États-Unis ratifient pas le protocole de Kyoto, je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nombril et qui se disent qu'ils en ont rien à foutre qu'on disparaisse de la planète. Donc je sais pas, oui, si les Chinois se tracassent de la suite, oui, mais je vois pas pourquoi les Chinois s'en tracasseraient plus que les autres.
Soyons optimistes. Votre prochain voyage
en Chine. Mon acupuncteur dit ça tout le temps. Il dit il faut penser positif.
Voilà, et eh bien moi je vais dire pareil. Vous partez quand en Chine pour la prochaine fois?
Je sais pas, j'étais invitée à enseigner à l'école des beaux-arts de Canton, et puis au moment où j'ai reçu l'invitation, c'est toujours comme ça, j'étais enceinte. Donc j'ai demandé qu'on reporte le projet à 2009, donc on va voir si ça se fait ou pas.
Bon, donc on va dire 2009 pour Canton.
Ok, on va dire ça.
Anne Penders, merci.
Merci à vous.